Midi, le 12-30, Vincent Parisot, Christelle Revière.
Bonjour à toutes et à tous et bonjour Christelle.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
Allez, c'est parti pour RTL Midi, vous le savez, votre heure et demie d'infos interactives quotidiennes. On fait cette émission grâce à vous. Donc on a besoin de vos témoignages, de votre expertise et puis bien sûr simplement de votre réaction au 32-10, notamment sur l'attentat contre le bus des joueurs de Dortmund avant le quart de finale de Ligue des Champions hier soir face à Monaco. Attentat, c'est certain. Est-il d'origine islamiste ? La lettre de revendication l'affirme, même si la police allemande n'exclut pas une manipulation. Alors, quelles sont les pistes ? Que conclure de la méthode employée, des explosifs éventuellement utilisés ? Même si l'UEFA vient d'annoncer des mesures de sécurité renforcées partout où c'est nécessaire, est-ce qu'il faut vraiment jouer ce match en fin d'après-midi comme annoncé ? La rencontre Munich-Madrid est-elle aussi menacée ? Tiens, on va en parler évidemment avec vous, notamment si vous étiez au stade de Dortmund. N'hésitez pas à témoigner. 32-10, on sera dans 20 minutes avec un expert de l'antiterrorisme, Claude Moniquet.
À 11 jours du premier tour de l'élection, comment dépoussiérer nos institutions ? Faut-il une 6e République ? L'instauration de la proportionnelle, la réduction du nombre de parlementaires ? Nous en débattrons au 32-10 à 13h avec le président du collectif Sinopia, un cercle de réflexion qui a sondé les Français sur un Big Bang institutionnel. C'est la saison des ralliements de Jean-Louis Debré à Martin Chirac, le petit-fils de l'ancien président. Ils se mettent en marche pour Emmanuel Macron. Un millier de migrants hébergés dans des gymnases, 500 autres sont restés dans la rue. Nous irons à Grande-Synthe au lendemain de l'incendie du camp de réfugiés. À Paris, à vélo, on dépasse les autos. Mais quel vélo ? Eh bien, on devrait savoir d'une minute à l'autre si Vélib perd le marché et ce qui va changer pour les cyclistes parisiens. Si vous êtes amoureux de la petite reine en ville, appelez-nous 3210. Il n'y a pas que le bio. Des producteurs du Sud proposent des fraises et des tomates entièrement naturelles, garanties sans pesticides. La météo, bonjour Patricia Charbonnier.
Bonjour.
Toujours aussi parfaite.
Oui, météo printanière cet après-midi avec du soleil et des températures en hausse. Quelques bémols quand même, quelques développements nuageux sur les Alpes pour cet après-midi, un léger voile nuageux près des frontières du Nord. Et localement, le ciel sera quand même très nuageux cet après-midi entre le nord de la Bretagne, la pointe du Cotentin et les Hauts-de-France. Des températures comprises entre 13 et 25 degrés, 13 degrés pour le minimum au Havre, 16 degrés à Lille, 18 à Nancy, 19 à Paris, 22 à Toulouse et Marseille et 25 à Nîmes.
Et la question du jour sur RTL.fr. On vous demande si le prochain président ou la prochaine présidente devra revoir les institutions. Vous êtes presque unanime, en tout cas, c'est une majorité absolue et de loin. Vous nous dites oui à 76%, 19% de non. Eh bien écoutez, vous pouvez continuer à voter, évidemment, ça c'est sur RTL.fr. Mais le mieux, c'est d'avancer des propositions, on pourra en parler tout à l'heure. 32-10.
RTL Midi.
Dortmund ne cédera pas au terrorisme. Le président du club allemand a annoncé ce matin sur Twitter que le club avait repris l'entraînement. Au lendemain de l'attentat contre le bus des joueurs, le Borussia affrontera donc Monaco à 18h45 pour le quart de finale aller de la Ligue des Champions. Et il s'agit bien de terrorisme avec ces 3 explosions contre le bus blindé du Borussia. Une lettre de revendication a été retrouvée sur les lieux de l'attaque. Blandine Milsan, vous êtes en Allemagne pour RTL.
Oui, alors cette lettre ouvre en effet clairement la piste islamiste. Écrite en allemand sur une page, elle commence avec ces mots « Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux » et dénonce la participation militaire de l'Allemagne dans la coalition contre l'État islamique. Elle évoque le recours à des avions tornado en Syrie, cite nommément Angela Merkel et réclame la fermeture de la base militaire de Ramstein en Allemagne. Enfin, cette lettre fait référence à l'attentat de Noël à Berlin qui avait fait 12 morts. Ces informations citées par plusieurs médias allemands ce matin ne sont pas confirmées officiellement par les enquêteurs. D'après eux, il pourrait tout aussi bien s'agir d'une manœuvre de diversion et ils évoquent d'ailleurs une procédure inhabituelle. Mais ce qui est sûr, c'est que le parquet fédéral a repris l'enquête. Or, le parquet fédéral en Allemagne est seul compétent en matière de terrorisme. En tout cas, les deux matchs de ce soir à Dortmund contre l'AS Monaco et à Munich entre le Bayern et le Real Madrid, ces deux matchs vont se jouer sous haute surveillance avec renforcement des effectifs dans les deux villes et autour des stades et des mesures de sécurité bien entendu prises autour des hôtels où se trouvent les équipes et autour des bus qu'elles vont prendre.
Effectivement, l'UEFA confirme à l'instant que les mesures de sécurité seront renforcées partout où c'est nécessaire, c'est-à-dire pour les 3 autres matchs de la Ligue des Champions de ce soir. Ils seront donc sur le terrain tout à l'heure, mais les joueurs vont-ils réussir à surmonter ce choc ? Marc Bartra, le défenseur international, opéré d'une fracture du radius, n'en sera pas, mais quid de ses partenaires qui, pour certains, se sont couchés par terre dans le bus, terrifiés juste après l'explosion ? Philippe Sanfourge, vous êtes à Dortmund pour RTL. Quelle équipe va affronter Monaco ce soir ?
Alors écoutez, impossible de savoir alors qu'il est si le seul Marc Bartra sera remplacé ou si d'autres joueurs peut-être atteints psychologiquement vont devoir céder leur place officiellement. Tout le club fait front ce matin et les quelques joueurs qui, selon nos informations hier, se montraient réticents ont depuis rallié la position commune. Tous se sont en tout cas entraînés ce matin, non pas au stade mais dans leur centre d'entraînement. Ils sont depuis rentrés dans le nouvel hôtel qu'ils ont intégré hier soir après l'attaque du bus. Des joueurs qui cherchent un moyen de rendre hommage dès ce soir à leur coéquipier pieds blessés, peut-être en portant un t-shirt à l'échauffement. Les supporters, eux, travaillent aussi sur un tifo spectacle d'avant-match totalement remanié pour apporter leur soutien au club et évidemment à Marc Bartra au centre de toutes les attentions.
Philippe Sanfourche en direct de Dortmund pour RTL et le vice-président de l'AS Monaco, Vadim Vassiliev, a tenu à réagir il y a quelques minutes.
Tout d'abord, je veux redire tout mon soutien au Borussia Dortmund et à Marc Bartra qui était blessé. Ce sont les événements ignobles qu'on aimerait ne jamais connaître. Le match va bien avoir lieu ce soir. Les conditions sont bien évidemment compliquées. Nous avons posé la question s'il faut jouer ce soir. Mais le football ne doit pas être pris en otage par ces événements, par ces gens. Et il faut être plus fort.
Le vice-président de l'AS Monaco, Vadim Vassiliev, quant au match Monaco-Dijon prévu samedi dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1. Il sera décalé de 17h à 21h. Vous êtes supporter, nous attendons vos réactions au 32-10 à cette attaque inédite dans le milieu du football. Faut-il jouer ce soir? On en parle tous ensemble. En Égypte, Pâques sera célébrée à minima. L'église copte limite les célébrations aux messes dans les églises alors que les attentats de dimanche ont fait 45 morts.
On est à J-11 du premier tour de l'élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon est toujours le plus populaire, d'après un sondage IFOP fiducial, puisqu'il recueille 68% d'opinions favorables. Mais attention, rien à voir évidemment avec les intentions de vote. Benoît Hamon dévoile, lui, un plan pour créer 1 million d'emplois sur son quinquennat. Et Emmanuel Macron est en visite aujourd'hui du côté de Pau avec François Bayrou. Emmanuel Macron qui continue d'engranger les ralliements. Et cette fois, Olivier Bost, c'est particulièrement notable, ce sont les Chiraciens qui se mettent en marche.
Oui, et dans la grande famille Chirac, Emmanuel Macron ajoute une carte à son jeu aujourd'hui, celle de Jean-Louis Debré. Alors attention, on ne verra pas l'ancien président du Conseil constitutionnel à l'un de ses meetings ou dans un clip de campagne. Jean-Louis Debré a en fait fait une confidence au maire de Lyon, Gérard Collomb, l'un des premiers supporters d'En Marche. « Je ne peux pas voter pour François Fillon », lui a-t-il dit. « Je voterai Emmanuel Macron », c'est ce que rapporte le journal L'Opinion. Alors en 2012 déjà, Jean-Louis Debré avait voté François Hollande. Mais ce nouveau soutien confirme une tendance de fond. La famille et les amis de Jacques Chirac penchent largement pour Emmanuel Macron. Le plus impliqué est Jean-Paul Delevoye, l'ancien ministre au temps du RPR, préside la commission des investitures chez En Marche pour les élections législatives. C'est un poste sensible. D'autres ont affiché publiquement leur soutien. Dominique Perben, Renaud Dutreil, Jean-Jacques Ayagon, Marie-Anne Monchamp, Anne-Marie Idrac ou encore Corinne Lepage. Dans le cercle familial de Jacques Chirac, son petit-fils Martin Rey Chirac est adhérent à En Marche, lui, depuis le début, et il soutient publiquement Emmanuel Macron. La liste est donc très longue, mais du côté des Républicains, chez François Fillon, on rétorque que le vrai, le seul héritier politique de Jacques Chirac, eh bien, c'est François Baroin, et il est même devenu incontournable dans la campagne de François Fillon.
Voilà, et puis Bernadette, on ne sait pas non plus où va sa préférence.
Non, ni Claude Chirac pour l'instant.
Quant à l'actuel locataire de l'Élysée, François Hollande, il a été interrogé par le site Combini sur l'après, et il a eu cette réponse sur celui ou celle qui lui succédera.
Je suppose qu'il y aura un dernier jour et qu'il y en a bien un qui viendra me dire qu'il est devenu président. Je l'aurais su quand même avant. Je lui donnerai ce que je pense être mon expérience et je souhaiterais qu'il réussisse.
Yoel.
Je préfère dire il, c'est ça. Même si je ne veux pas être désagréable pour Madame Artaud.
Voilà, il ou elle. Il
pour plutôt, Madame Artaud, hein, il a parlé que de Madame Artaud. Il n'a pas cité Marine Le Pen.
Voilà, François Hollande qui, plus sérieusement, dans une interview à paraître demain dans Le Point, lance une mise en garde voilée contre Jean-Luc Mélenchon. Il pointe, je cite, « le péril qui consiste à regarder le spectacle du tribun plutôt que le contenu de son texte ». Et ensuite, eh bien, faudrait-il changer profondément les institutions? Jean-Luc Mélenchon, par exemple, réclame une 6e République. D'après un sondage IFOP, vous êtes 30% à le suivre sur cette idée, 40% à vouloir réduire le nombre de parlementaires. Nous vous attendons pour en débattre tous ensemble au 32-10.
Une courte pause et dans un instant une question. Où sont les migrants du camp de Grand-Synthe? À tout de suite.
RTL Midi, Christelle Robière, Vincent Parisot.
Et une nouvelle nuit dans des gymnases avant de trouver un abri. Un millier de migrants qui vivaient au camp de Grande-Synthe ont été abrités provisoirement dans la région au surlendemain de l'incendie qui a tout détruit. En attendant d'être évacués vers des centres d'accueil et d'orientation, Maxime Wolf, où sont-ils ?
Eh bien, à peu près 1000 d'entre eux sont hébergés dans 5 gymnases à Grande-Synthe notamment, Dunkerque et Creswick. Mais 400 sont dans la nature à l'image d'Imar, afghan de 28 ans, le regard dans le vide.
We don't have any place for tonight.
Nous n'avons pas d'endroit où dormir ce soir. Nous avons besoin d'aide, nous voulons de l'aide de la part du gouvernement français.
Alors ici à Grande-Synthe, dans le centre-ville, très tôt ce matin, des réfugiés étaient parmi les premiers clients des boulangeries par exemple. Et de l'aveu des habitants, leur présence est plus visible qu'avant.
Ah oui, ils sont livrés à eux-mêmes. Il y en a une partie qui a été logée dans des gymnases et une partie qui dans la nature. Il faut trouver une solution. Avec un peu d'effort, on peut réquisitionner. Il suffit de le vouloir.
Il y en a beaucoup plus. Hier soir, je me suis aperçue qu'il y en avait plein donc au niveau de Décathlon. Donc, mais on a quand même un peu la peur et le stress, quoi.
On voit beaucoup de migrants aller et venir dans la vie, effectivement. Oui.
400 réfugiés au moins sont bloqués sans solution. Les trains et les bus au départ de Dunkerque en direction de Calais ont même été interrompus pour éviter un afflux de réfugiés.
Les relations entre les Russes et les Américains se sont dégradées depuis l'arrivée de Donald Trump. Vladimir Poutine le reconnaît ce matin. Du reste, le chef de la diplomatie américaine n'est pas reçu par le président russe, mais par son homologue qui s'inquiète des intentions réelles des États-Unis. L'attaque près de Lyon d'un fourgon banalisé qui transportait des bijoux et de l'or. Il a été pris en tenaille par plusieurs voleurs à la sortie de l'autoroute A89. Le montant du butin n'est pas connu. Il y a 4 mois déjà, un commando avait attaqué un fourgon banalisé selon le même mode opératoire. Un commando qui s'était emparé de 70 kilos d'or.
De futurs enseignants se mobilisent et se mettent en grève. Ils ne sont donc pas encore profs, ces élèves de l'ESPE Grenoble. Mais voilà, ils protestent depuis la fin du mois de mars contre leur propre formation d'enseignants. Ils disent qu'elle est totalement déconnectée de la réalité d'une classe. Serge Puyot, vous les avez rencontrés.
Mathilde, jeune enseignante stagiaire à Grenoble, fait partie des grévistes frustrés par leur formation, trop théorique selon elle, et pas assez en rapport avec la réalité.
Sur la question de l'autorité du professeur par rapport à sa classe, il nous parle de l'autorité d'un point de vue philosophique, mais on ne nous donne pas des billes concrètes pour mettre en place ce rapport-là entre nous et les élèves. D'autant que les jeunes professeurs, ils sont souvent envoyés dans les classes les plus difficiles ensuite, donc c'est vraiment des outils dont on a besoin.
Camille, votre future enseignante, dénonce-t-elle la théorie des fleurs et de l'arrosoir.
Comment est-ce qu'on dialogue aussi avec l'élève? On n'apporte pas précisément ces choses-là, ou alors c'est des choses qui sont, on va dire, manipulées avec des mises en situation très métaphoriques, où on nous parle de fleurs, d'arrosoir.
Les fleurs, c'est qui les élèves? Et vous, l'arrosoir?
Sans doute, j'imagine.
Vous êtes censé arroser tout ça pour faire pousser?
Enfin, des fois, on rigole jaune.
La direction de l'école rejette ces accusations, minimise le nombre de grévistes et parle d'un mouvement à caractère politique à l'occasion des élections présidentielles.
Un reportage signé Serge Puyot, évidemment. On attend vos réactions, notamment si vous êtes jeune ou futur enseignant. N'hésitez pas, 3210.
Elles sont rouges, croquantes à souhait et garanties sans pesticides. Des producteurs du sud de la France lancent aujourd'hui des tomates et des fraises sans aucun traitement. Comment est-ce possible, Virginie Garin ?
Eh bien, grâce à la production sous serre, qui permet de créer une sorte de bulle, un écosystème avec des conditions de culture plus saines qu'en extérieur. Bruno Villa est le président des paysans de Rougeline qui commercialise ses fruits sans pesticides. Il est aussi producteur près de Perpignan.
La production sous serre nous permet d'être dans un milieu protégé des intempéries, des aléas climatiques et qui évite aux plantes de développer des maladies. De travailler aussi grâce à l'introduction d'insectes auxiliaires pour lutter contre les parasites et les nuisibles de la tomate, donc ce qu'on appelle la production biologique intégrée. Nous arrivons à avoir une maîtrise de la protection de la culture qui nous permet de ne pas utiliser de produits de traitement.
Et les serres sont aussi pressurisées pour empêcher les insectes de rentrer. C'est de la haute technologie et c'est pourquoi ces fruits vont être vendus 30% plus cher quand même.
Bah, d'accord, mais est-ce que c'est mieux que le bio ?
Bah, ça dépend de votre priorité, Christelle. Bah, si vous faites vos courses avec le souci de l'environnement, une serre, c'est chauffé, ça consomme beaucoup d'énergie, c'est du hors-sol, c'est moins écolo que le bio.
En revanche, ça ne pousse pas dans la terre. Elle ne pousse pas dans la terre, ces fraises et ces tomates.
Grands bacs un petit peu suspendus. Mmh. Alors, en revanche, si votre seul souci, c'est d'acheter des fruits sans pesticides, là, c'est presque mieux que le bio, car en bio, s'il y a une maladie, il peut y avoir des traitements à la bouillie bordelaise, par exemple. Alors, que pour avoir droit à l'étiquette, à ce petit stick biologique, zéro pesticide. Les producteurs doivent s'en passer complètement.
Voilà, merci Virginie. Lui, il pourra s'offrir tous ses caprices et pas seulement une envie de fraise. Un Français vient de remporter la cagnotte de l'Euromillion que personne n'avait décroché sur les 7 tirages précédents. Il empoche donc 83 397 527 euros, très exactement.
Quand
même. Enfin, s'il se présente chez son buraliste, parce que pour l'instant, il ne s'est pas encore fait connaître.
Ouais, quand même, qui vont regarder leurs billets, j'imagine, dans les prochaines heures. Une courte pause dans un instant. Quelle piste pour l'attentat de Dortmund ? On est avec Claude Moniquet, à tout de suite.
RTL Midi, Christelle Rebière, Vincent Parizeau.
Invité d'RTL Midi, Claude Moniquet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes expert en contre-terrorisme. Merci d'être avec nous pour nous éclairer sur l'attaque contre le quart des joueurs de Dortmund avant leur quart de finale face à Monaco hier. On le disait, une lettre a été retrouvée avec des références à l'islam, à la participation allemande à la coalition, à l'attaque du marché de Noël de Berlin. Et pourtant, la police allemande reste prudente. Pourquoi, d'après vous ?
Oui, moi aussi, je reste assez prudent parce qu'on est en face d'une part d'un mode opératoire qui ne correspond pas à ce qu'on connaît d'organisations comme Daesh. Daesh vise à faire le maximum de victimes possibles. Là, on est plus sur quelque chose effectivement de sophistiqué, des explosifs détonés à distance, mais qui manifestement n'étaient pas suffisants pour tuer beaucoup, pour tuer tout court d'ailleurs, puisqu'il y a seulement un blessé. Ça ressemble plus à un avertissement et Daesh ne donne pas d'avertissement. La deuxième chose, c'est que la revendication, cette lettre, ça ne ressemble pas non plus à la manière dont Daesh revendique une action. En général, ça se fait par leur agence de presse, ACAP, ou par un porte-parole de l'organisation, rarement sur le terrain par une lettre. Parfois par des messages vidéo, des messages posthumes quand il s'agit d'un kamikaze, mais une lettre, à ma connaissance, c'est la première fois. Ce serait la première fois, donc c'est effectivement assez douteux, d'autant plus qu'il y a une autre revendication d'extrême gauche qui circule sur le net et qui a encore une troisième piste qui serait celle d'une action criminelle, de racket.
Mais quel intérêt de commettre une attaque et de brouiller les pistes sur la revendication ?
Alors ça, c'est quelque chose qu'on a... Si on est en face d'une action criminelle, rappelez-vous, en 2011, il y avait eu des bombes qui avaient explosé dans des magasins IKEA dans trois pays, hein, Pays-Bas, Belgique et France, si je me rappelle bien, des petites bombes qui n'avaient pas fait de blessés. Et on avait... les gens qui les avaient posées avaient laissé se répandre toute une série de bruits sur l'extrême droite, l'extrême gauche, tout ce que vous voulez. Tout simplement pour brouiller les pistes. C'était purement une tentative d'extorsion de fonds. Donc si on est en face d'une action criminelle, le but de ces gens, l'intérêt de ces gens est évidemment d'éloigner la suspicion de la police. Donc là, ça ferait du sens.
Apparemment, les explosions ont été déclenchées à distance. C'est quand même assez sophistiqué. Est-ce que ça mène vers une piste particulière ?
Mais à nouveau, c'est assez sophistiqué et ça n'est pas de nouveau un mode opératoire typique des radicaux islamistes qui utilisent un explosif qui est le TATP. Là, on parle de quelque chose apparemment de plus puissant, peut-être de plus professionnel et qui ont assez rarement recours à la détonation à distance. Ce sont soit des minuteries, soit des kamikazes. Donc là aussi, on est en face de quelque chose qui est assez atypique. Alors maintenant, on ne peut rien exclure à ce stade de l'enquête. Ça peut être une nouvelle évolution du djihadisme, ça peut être des gens isolés, qui s'inspirent du djihadisme. Ça n'est pas exclu. Mais pour le moment, je crois que, étant donné la multiplicité des pistes et la complexité de l'affaire, la prudence la plus extrême s'impose.
Bien sûr, on va rester prudent, mais on note quand même que c'était un autocar blindé, avec des vitres blindées. Il y a quand même eu quelques dégâts et un blessé. Ça signifie que les charges explosives étaient quand même assez intenses.
Les charges étaient intenses, mais l'idée de faire, de toucher un véhicule en mouvement par des bombes positionnées sur un bord de route, d'abord ça implique, et là c'est très intéressant, s'ils sont détonés à distance, ça implique que obligatoirement celui qui les a détonés était à vue du véhicule. Donc le travail des caméras de sécurité s'il y en a, des observations, des témoins pourront peut-être donner des indications importantes, parce qu'on ne peut pas détonner quelque chose sur un mobile si on ne le voit pas bouger. Mais de nouveau, là on est sur quelque chose qui à la rigueur évoquerait plus les pistes d'extrême gauche allemande d'il y a 20 ou 30 ans, mais moins l'islamisme radical. Voilà. Mais de nouveau, je pense vraiment qu'il faut être prudent.
Et ben voilà, et vous l'avez été et on va l'être encore. Avant d'en savoir plus, merci beaucoup Claude Moniquet d'avoir été en direct sur RTL.
32-10, prenez la parole sur RTL.
Et on accueille Hugo qui nous appelle de Nancy. Bonjour Hugo.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue,
Hugo.
Vous étiez au match hier soir ?
Oui, tout à fait. Donc j'étais au match à Dortmund, dans une ambiance plutôt sympa avant le match. Ça se passait super bien. Les Allemands étaient très, très conviviales et on ne s'attendait vraiment pas à ce qu'il se passe quelque chose.
Comment vous avez été informé ?
Tout d'abord, j'étais donc juste à côté du parquage des supporters de Monaco, et c'est vrai qu'on a vu sur des écrans écrit en allemand, je parle pas allemand, mais il y avait écrit quelque chose comme quoi, enfin, du moins il se passait quelque chose, on savait pas quoi, puis l'heure du coup d'envoi approchait, les joueurs n'étaient toujours pas sortis à l'échauffement. Donc c'est vrai que on commençait à se poser quelques questions. Mmh.
Vous êtes toujours à Dortmund, là vous allez assister au match tout à l'heure, 18h. Oui.
J'ai été dans l'obligation de rentrer tout simplement parce que professionnellement j'ai un rendez-vous qui est très important aujourd'hui, et je pouvais pas le manquer, donc c'est pour ça que je suis un peu frustré qu'ils aient remis le match.
Vous pensez, Hugo, vous pensez qu'ils ont raison de le jouer aujourd'hui le match?
Raison, si vous voulez, pour les supporters qui sont là de Monaco, c'est sûr que pour eux, ça fait une trotte de venir jusqu'ici. Donc, ils vont pouvoir y assister. Après, les personnes qui sont aux alentours à 4 heures, qui ont fait le déplacement pour le match-là, ça va être compliqué. Et pour les joueurs, je ne sais pas dans quel état ils sont au niveau des têtes. C'est surtout ça. Moi, je pense qu'il aurait fallu poser d'abord la question aux joueurs de Dortmund.
C'est eux les plus intéressés.
On doit vous laisser, Hugo. Je note quand même sur votre fiche que vous étiez déjà au match au Stade de France pour France-Allemagne le 13 novembre. Donc, d'une certaine manière, vous avez revécu sans doute la scène, j'allais dire. Merci en tout cas d'avoir fait le 32-10. On va marquer une courte pause. À très bientôt sur RTL, Hugo.
Au revoir.
RTL Midi.
La météo, Patricia Charbonnier, encore une belle journée de printemps.
Oui, avec du soleil cet après-midi, des températures en hausse. On est toujours au-dessus des normales de saison, 13 degrés de minimum au Havre, 16 degrés à Dunkerque, 19 à Paris, 20 degrés à Besançon, 21 à Lyon et 25 pour le maximum à Nîmes. Avec du plein soleil en général, on en a quand même quelques bémols, quelques développements nuageux, surtout en fin de journée sur les Alpes. Un léger voile nuageux près des frontières du Nord et beaucoup de nuages. Là, le ciel est très nuageux entre le nord de la Bretagne, la pointe du Cotentin et les Hauts-de-France.
Et effectivement, demain, ça se dégrade.
Une dégradation nuageuse, surtout pour demain matin sur la moitié nord du pays, avec des pluies faibles et éparses plutôt dans la partie nord-est, retour des éclaircies dans l'après-midi, mais avec des températures en baisse. Ce sera assez frais demain matin, toujours du plein soleil au sud de la Loire. Et pour vendredi, encore une dégradation nuageuse sur la moitié nord. Ce sera très contrasté, des nuages au nord et du soleil dans le sud, avec une petite fraîcheur assez marquée au nord. Merci Patricia.
Il est 13h.
RTL Midi. Le 13h, Vincent Parisot, Christelle Rebière.
Et vous, au 32-10, les auditeurs ont la parole, les électeurs plus que jamais. Et on va se demander dans un instant au 32-10 comment faire évoluer nos institutions qui seraient à bout de souffle, comment les rendre plus efficaces, plus justes. Par exemple, 40% des Français souhaitent le non-cumul des mandats dans le temps, la réduction du nombre de parlementaires. 30% sont pour une 6e République. C'est le collectif Sinopia, un cercle de réflexion qui a commenté cette étude. En tout cas, quand on vous demande si le prochain président devra revoir les institutions, vous nous dites oui à 76%. Et on va en parler donc avec le président de Sinopia, Alexandre Malafaye, qui pourra dialoguer avec vous, si vous le souhaitez, dans quelques minutes.
RTL. Présidentielle 2017. Vous, candidat.
Dans notre série Vous, candidat, parmi les propositions que vous nous avez laissées au 32-10, nous avons retenu celle de Françoise, qui nous écoute dans le Val d'Oise. Elle voudrait que personne ne touche à la TVA pendant le quinquennat.
Veuillez laisser un message après le bip.
Bonjour Christelle, bonjour Vincent. Je suis Françoise, j'habite dans le Val d'Oise, à Argenteuil. Et si j'étais candidate à la présidentielle, je m'engagerais, pas une promesse, mais je m'engagerais vraiment à ce qu'il n'y ait pas d'augmentation sur la TVA, car pour moi, c'est l'impôt le plus injuste qui puisse exister. Je pense qu'il y a des impôts qui sont plus appropriés que celui-là pour apporter de l'argent à l'État. Et moi, ce qui me dérange, c'est de voir des gens qui sont au rayon des supermarchés avec leurs enfants et n'ont pas la possibilité de pouvoir s'acheter certaines denrées alimentaires par rapport au taux de TVA pratiqué en France.
Voilà, ne touchez pas à la TVA, dit Françoise, qui nous écoute dans le Val d'Oise. Vous pouvez réagir si vous le souhaitez au 32-10. Les enquêteurs allemands examinent la piste islamiste au lendemain de l'attaque contre le bus des joueurs du Borussia Dortmund. 3 explosions qui ont fait un blessé. Une lettre a été retrouvée sur les lieux de l'attaque, écrite au nom d'Allah. Dortmund ne cédera pas au terrorisme, dit ce matin le patron du club. L'entraînement a repris. Le match aura lieu à 18h45 face à Monaco. Monaco. Quant aux supporters monégasques, eh bien, ils ont été très agréablement surpris par la chaîne de solidarité qui s'est mise en place hier soir. Beaucoup d'entre eux ont dormi chez l'habitant, Michael Lefebvre.
Oui, ils sont 6 Alsaciens, 5 garçons et une fille à avoir trouvé refuge hier soir chez Franck. Grâce au hashtag Bed for Away Fans, un lit pour les supporters adverses, Mathieu, 25 ans, raconte.
On a lancé du coup un hashtag sur Twitter chacun, en français, en allemand, en anglais, pour avoir une chance de réponse à 6. Et finalement, on a eu la réponse de Franck.
Hervé et ses amis se sont tout de suite sentis à l'aise chez leur hôte.
Il nous a accueillis avec chaleur, quoi. Il nous a servi à boire. Vous voulez de l'eau, vous voulez quelque chose? Pour la chambre, on va s'organiser comme ça. Honnêtement, on était super fatigués, mais on a encore discuté pendant au moins 2 heures autour de tout ce qui s'était passé.
Franck, lui, n'oubliera pas de sitôt cette expérience.
C'était mon premier tweet et je me retrouve avec 6 jeunes gens chez moi. C'est drôle.
Really funny.
Histoire de prolonger cette soirée inoubliable, Maxime a déjà lancé les invitations.
Clairement, s'il veut venir en Alsace, il n'y a pas de souci. Hein. On l'héberge avec grand plaisir, hein, ça, il n'y a aucun problème.
Tout ce petit groupe rentrera ce soir en Alsace avec le sentiment d'avoir vécu un moment de partage exceptionnel.
Reportage Michael Lefebvre. L'UEFA annonce des mesures de sécurité renforcées pour les 2 autres matchs de ce soir en Ligue des Champions. Jean-Claude Decaux va-t-il perdre le marché des Vélib à Paris? Réponse dans quelques minutes à la mairie de Paris où vous vous trouvez, Eric Vanier. Qu'est-ce que ça pourrait changer?
Alors disons que d'abord le grand favori, c'est un consortium qui s'appelle Smooth and Go et qui devrait reprendre l'exploitation des Vélib pour une durée de 15 ans à partir du 1er janvier prochain. Dans ce consortium, on trouve donc cette fameuse start-up de Montpellier, Smooth, spécialiste depuis une dizaine d'années de la vélocation libre-service, mais aussi on trouve Vinci Park, qui s'appelle maintenant Indigo. C'est d'ailleurs dans les parkings de Vinci que seraient installés les ateliers de réparation des futurs Vélib. On trouve aussi dans ce consortium Mobivia, ça ne vous dit rien peut-être, mais derrière se cachent des marques comme Midas et Noroto. C'est aussi un grand spécialiste du vélo électrique et c'est important puisque 30% du futur parc sera doté d'une motorisation électrique. Et fait partie aussi de ce groupement également Moventia, qui exploite en Espagne des lignes de transport public, le réseau de Barcelone quand même notamment. Mm-hmm. Donc pas de souci, il y a du savoir-faire, c'est du solide ce consortium qui devrait faire pencher la balance en sa faveur parce que son offre est moins chère que celle de JC Decaux, de l'ordre d'une 20aine de % dit-on, pour une qualité supérieure avec des vélos très innovants, aussi robustes qu'avant mais moins lourds, équipés d'un triple système antivol et dotés d'une box au niveau du guidon, de la fourche, pour gérer l'abonnement et le trajet. On attend le vote, la confirmation d'une minute à l'autre, quasiment d'une seconde à l'autre.
Bon, ben rappelez-nous quand vous avez la confirmation. Merci Eric. Que vous soyez adepte du vélo électrique ou de la bicyclette classique, et si, surtout si c'est votre moyen de transport privilégié dans votre ville, eh bien nous vous attendons au 3210. Oui. Vous pourrez dialoguer tout à l'heure à 13h30 avec Virgile Caillet, délégué général de l'Union Sport et Cycle.